Et c'est la revue de presse de Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
On parle, Claude, d'un nationaliste.
Un homme politique russe qui se nommait Vladimir Jirinovski et qui est mort hier âgé de 75 ans. Et dans Le Monde, Benoît Vitkin se demande si les dernières semaines de sa vie, il aura connu le bonheur, lui qui appelait de ses voeux une invasion de l'Ukraine. Oh, il espérait aussi, Jirinovski, une troisième guerre mondiale où la Russie brûlerait Paris, atomiserait Berlin. Il disait que les enfants russes, plutôt qu'apprendre l'anglais, devaient apprendre à se servir d'une Kalachnikov afin que le reste du monde apprenne le russe. Ces outrances ne seraient qu'anecdotes si Jirinovski n'était pas célébré par le pouvoir russe dont il était, dit Le Monde, un opposant factice. Et on lit dans Le Figaro cet éloge signé Vladimir Poutine. Vladimir Jirinovski était un politicien expérimenté, énergique, ouvert à la discussion. Toujours, il défendait une position patriotique et les intérêts de la Russie. Et alors, on ressent un malaise. Jirinovski, à la fin de l'Union soviétique, avait créé le premier parti politique non communiste. On allait visiter cette brute homophobe qui voulait légaliser la polygamie pour repeupler le pays. Comme on interroge les marginaux, on réalise qu'il était, dans l'idéologie russe, un personnage central. Le Point, qui titre sur la stratégie du carnage, reprend sur son site la question récurrente d'un cancer de la thyroïde dont souffrirait Vladimir Poutine. Un cancérologue aurait ces 4 dernières années passé 166 jours près du maître du Kremlin qui goûte les bains au sang de bois de cerf réputé fortifier sa santé. Que valent ces descriptions d'un satrape affaibli? Sur le site de Libération, la rubrique Check News fait le point sur ces rumeurs de cancer qui s'intensifient depuis la guerre. Un tabloïd anglais a titré ainsi « Mad Vlad dying of cancer ». Vlad le fou en train de mourir d'un cancer. Je le cite surtout pour le folklore vulgaire du confrère. Ils sont réels, en revanche, les morts de l'Ukraine dont les photos saturent Paris Match et réels aussi dans Paris Match encore, le sacrifice des journalistes qui tombent là-bas. Lisez ce portrait signé Nicolas Delesalle du photographe ukrainien Max Levin retrouvé mort vendredi dernier, sa dégaine de chat maigre et dans le cristallin de ses yeux bleus ce truc un peu noir de ceux qui ont vu la guerre de trop près. Max, lui, aimait la nature, mais il n'avait pas eu le choix. Depuis 2014, les soldats de son pays étaient ses frères. Il rêvait, disait-il, de faire la photo qui mettrait fin à la guerre. Réelle aussi est la soif de vivre de l'Ukraine que Le Figaro raconte à Kiev où un salon de beauté est resté ouvert et que Libération rencontre à Zaporijja dans un théâtre dont les acteurs et les techniciens fabriquent des filets de camouflage, des ponchos militaires, des caleçons, des cagoules pour les soldats du front et en même temps répète un conte musical interactif, Roman le Hérisson, qui doit rendre le sourire aux enfants réfugiés venus de Mariupol.
On parle aussi d'un orgue.
Notre orgue, Léa, celui de Radio France, qui en une seconde passe du ronronnement d'un chaton au rugissement d'un grand fauve, dit son maître Karol Mossakowski aux enfants qui le visitent. Vous le lirez dans La Croix. Dimanche, on entendra ronfler l'orgue qui accompagnera un vieux film muet et drôle, La croisière du navigateur de Buster Keaton. Mesurons-nous la beauté de nos vies? Il y en a de la musique dans nos journaux. Midi Libre encore m'annonce une violoncelliste, Camille Thomas, en concert samedi à Uzès. Elle dit que l'art est la réponse à la souffrance. Ouest France nous prépare au festival Classique au large de Saint-Malo, où dans 2 semaines on entendra des virtuoses dans un auditorium où derrière les musiciens vous contemplez la mer. Mais dès ce soir à Rennes, Alan Stivell, 78 ans, donne à Rennes sa symphonie celtique où l'on se tourne vers le monde en parlant de la Bretagne. Et puis, toujours dans Ouest France, j'apprends que des étudiantes en gestion et mise en valeur des œuvres d'art ont retrouvé et exposent à l'université Rennes 2 des sons rassemblés en 1939 par un abbé et 2 chercheuses qui, avant une terrible guerre, collectaient accordéons, bombardes, biniou, jabadets aux gavottes, danses et chants d'amour, de travail et d'ivrogne qui viennent de si loin et que des jeunes femmes prolongent. Si vous voulez comprendre le mot transmission, lisez Ouest France. La transmission, vous l'entendrez aussi dans un chouette entretien de l'équipe qui, avant le match samedi de rugby Racing Stade Français, explore l'histoire d'un derby. Aujourd'hui, on entend 2 racigmen, Éric Blanc, champion de France 1990, et Antoine Gibert, jeune demi du Racing aujourd'hui. Ça parle d'histoire, de Bourges, de banlieue. Vous allez adorer cette phrase du vieux Blanc racontant son enchantement quand il a découvert le jeune Gibert. Quand t'es arrivé, je te voyais comme ça, une main raphaélique, une encolure de cygne, des mollets de Doberman. Comment ne pas aimer ces gens?
On parle enfin d'un rachat, Claude.
Et cette fois, c'est du foot, car dans Le Parisien, je lis que le Red Star à Saint-Ouen, club populaire, va être vendu à un fonds d'investissement américain et le maire de la ville, le socialiste Karim Bouamran, qui inquiet à rencontrer le patron de ce fonds, se dit rassuré. Moi qui aime ce club, je suis perplexe. Perplexe aussi, perplexe. Perplexe, sur le site de l'Obs, c'est le psychanalyste Boris Cyrulnik, auquel l'État avait confié une mission sur la petite enfance et qui a découvert que la même mission avait été confiée et grassement rémunérée à un cabinet de conseil, Roland Berger, quand lui peinait à faire rembourser les notes de frais des membres de sa mission. Sa perplexité s'ajoute au dossier du désenchantement démocratique. Midi Libre et l'Obs Papier, cette fois, rencontrent des abstentionnistes. L'économiste Jacques Nikonov, autrefois patron de l'organisation altermondialiste attaque, milite pour le boycott de la présidentielle. Allons. Dans le Républicain Lorrain, lisez Une splendeur de France avec l'historien Jacques Semelin, qui, à l'invitation de Simone Veil, consacre son existence à raconter comment les trois quarts des Juifs de France furent sauvés sous l'occupation. Pas par Vichy, dit-il, traitant au passage de Faussaire un polémiste connu, ce n'est pas le sujet, mais par des solidarités, des attentions, des petits gestes. Et Semelin ajoute ceci, ces attentions le touchent et le percutent, lui qui est aveugle et qui, dans sa vie, sait ce que valent les petits gestes.
Merci Claude pour cette revue de presse.
France Inter.